Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 10 août 2025. Sujet, esprit. Texte d'or, Jean. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lecture alternée, Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. La Bible. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit « L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père !» Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne « Science et santé avec la clé des écritures » de Mary Baker Eddy. La première exigence de cette science est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ce moi est esprit. » Par conséquent, ce commandement signifie ceci. Tu n'auras pas d'intelligence, de vie, de substance, de vérité, d'amour qui ne soit spirituel. Dans la science, l'homme naît de l'esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. Son origine n'est pas comme celle des mortels, dans l'instinct animal, et il ne passe pas non plus par des états matériels avant d'arriver à l'intelligence. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l'esprit, l'entendement sur la matière. Moïse prouva la puissance de l'entendement en accomplissant ce que les hommes appelaient des miracles. Ainsi firent Josué, Élie et Élysée. L'ère chrétienne fut inaugurée par des signes et des merveilles. Les miracles sont impossibles dans la science, et c'est sur ce point que la science diffère des religions populaires. La manifestation scientifique de puissance émane de la nature divine et n'est pas surnaturelle, puisque la science est une explication de la nature. La croyance que l'univers, y compris l'homme, est en général gouverné par des lois matérielles, mais qu'à l'occasion, l'esprit écarte ses lois. Cette croyance déprécie la sagesse omnipotente et donne à la matière la préséance sur l'esprit. Il est contraire à la science chrétienne de supposer que la vie est, soit matérielle, soit organiquement spirituelle. Entre la science chrétienne et toutes les formes de la superstition s'ouvre un grand abîme, aussi infranchissable que celui qui séparait le mauvais riche de Lazare. Les anciens prophètes acquirent leur prescience en se plaçant à un point de vue spirituel incorporel. Non en préfigurant le mal et en prenant la fiction pour le fait, c'est-à-dire en s'appuyant pour prédire l'avenir sur la corporalité et la croyance humaine. Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la science pour être en harmonie avec la vérité de l'être, ils deviennent voyants et prophètes involontairement, étant gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l'unique esprit. C'est la prérogative de l'entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement de connaître le passé, le présent et l'avenir. Selon la science chrétienne, les seuls sens véritables de l'homme sont spirituels, émanant de l'entendement divin. La pensée passe de Dieu à l'homme, mais ni sensation, ni communication ne passe du corps matériel à l'entendement. L'intercommunication se fait toujours de Dieu à son idée, l'homme. La matière n'est pas sensible et ne peut prendre connaissance du bien, ni du mal, du plaisir, ni de la douleur. L'individualité de l'homme n'est pas matérielle. Cette science de l'être n'est pas seulement valable après la mort dans ce que les hommes appellent le paradis, mais ici et maintenant. Elle est le grand fait de l'être pour le temps et pour l'éternité. Qu'est donc la personnalité matérielle qui souffre, pêche et meurt? Ce n'est pas l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, mais la contrefaçon de l'homme, la ressemblance inversée, la dissemblance, nommée péché, maladie et mort. L'irréalité de la prétention qu'un mortel est la vraie image de Dieu est illustrée par les natures opposées de l'esprit et de la matière, de l'entendement et du corps, car l'une est intelligence, tandis que l'autre est inintelligence. La vie réelle ou entendement est son opposé. La prétendue vie et le prétendu entendement matériel sont figurés par deux symboles géométriques, un cercle ou une sphère et une ligne droite. Le cercle représente l'infini, sans commencement ni fin. La ligne droite représente le fini, qui a un commencement et une fin. La sphère représente le bien, l'individualité éternelle et existant en soi, ou entendement. La ligne droite représente le mal, une croyance à une existence matérielle temporaire créée par elle-même. L'entendement éternel et l'existence matérielle temporaire ne s'unissent jamais, ni en figure, ni en fait. Une ligne droite ne se trouve pas dans une courbe, et une courbe ne peut s'ajuster à une ligne droite. De même, la matière n'a pas de place dans l'esprit, et l'esprit n'a pas de place dans la matière. L'homme comprend l'existence spirituelle dans la mesure où il augmente ses trésors de vérité et d'amour. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se spiritualisent. Il faut qu'ils abordent les interprétations plus larges de l'être et qu'ils gagnent un sens plus juste de l'infini, afin de se dépouiller du péché et de la mortalité. Ce sens scientifique de l'être, qui abandonne la matière pour l'esprit, ne suggère aucunement l'absorption de l'homme en la divinité, ni la perte de son identité, mais confère à l'homme une individualité plus développée, une sphère de pensée et d'action plus étendue, un amour plus expansif, une paix plus haute et plus permanente. L'entendement mortel à travers lequel la vérité paraît avec le plus d'éclat est celui qui a perdu beaucoup de matérialité, beaucoup d'erreurs, afin de mieux laisser transparaître la vérité. Alors, tel un nuage se fondant en une vapeur légère, il ne cache plus le soleil. La conscience construit un corps meilleur lorsque la foi en la matière a été vaincue. Corrigez la croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l'esprit vous reconstituera. Vous ne craindrez plus à l'avenir qu'une seule chose, c'est d'offenser Dieu, et vous ne croirez plus jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire. De l'amour, de la lumière et de l'harmonie qui sont la demeure de l'esprit, il ne peut venir que des reflets du bien. L'homme, bien compris, au lieu de posséder un corps matériel sensible, a un corps insensible. Et Dieu, l'âme de l'homme et de toute existence, étant perpétuelle dans l'individualité, l'harmonie et l'immortalité qui lui sont propres, communique ses qualités à l'homme et les perpétue en lui par l'entendement, non par la matière. La seule excuse que nous ayons pour nourrir des opinions humaines et rejeter la science de l'être est notre ignorance mortelle de l'esprit. Ignorance qui ne cède qu'à la compréhension de la science divine. Compréhension par laquelle nous avons accès au royaume de la vérité sur la terre et apprenons que l'esprit est infini et suprême. L'esprit et la matière ne se confondent pas plus que la lumière et les ténèbres. Lorsque l'un apparaît, l'autre disparaît. À mesure que les mortels commencent à comprendre l'esprit, ils abandonnent la croyance à une existence réelle en dehors de Dieu. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.